Bonjour Antoine Declerc.
Bonjour Francine.
C'est vous qui vous cachez derrière la Fédération Française de la Loose qui publie le Tour du Monde en 80 looses, c'est-à-dire que vous explorez les 5 continents en fonction des plus grandes looses sportives. Par exemple, figure en bonne place l'Afrique du Sud et bien sûr la Coupe du Monde 2010 avec la grève de l'équipe de France sous l'ère Domenech. Ça, c'est vraiment un incontournable pour la fête de la Loose. On ne peut pas faire un livre sans en parler.
Ah, nice. C'est un grand moment. Ça fait partie des moments où on se souvient où on était. On a la finale 98, on a la victoire en 98 et en 2018 et on a cette grève. Je veux dire, quoi de plus français que d'aller faire quand même une grève à l'étranger en Mondovision? Donc c'est clairement une destination, en plus dans un hôtel, on se souvient qu'il était un hôtel de luxe qui avait été un peu vilipendé par les politiques, donc il y a vraiment tout un environnement qui en fait une des plus belles histoires du sport français, pour nous en tout cas à la Fédé de la Loose.
Alors il y a tout dans ce livre, des événements très connus, d'autres moins. Par exemple, histoire assez drôle d'un fermier australien qui va remporter un ultra trail alors qu'il était la risée de ses concurrents.
Ouais, ça fait partie, par exemple, des histoires que moi j'ai découvertes en écrivant le livre. Elle est assez incroyable, effectivement. Je crois que c'est Youngcliffe, du coup, qui a 61 ans et qui arrive. Alors, c'était pas un ultra-trail, c'était une ultra-distance, parce que c'est des ultra-trailers qui m'ont dit que ce n'était pas du trail, mais en l'occurrence.
Désolé.
C'est du bitume pendant des milliers, des centaines, en tout cas, de kilomètres. Donc, ça reste quand même très compliqué et très dur. Et effectivement, il est arrivé avec des bottes et une salopette trouée. Et tout le monde s'est moqué de lui, et au début a raison parce qu'il était loin derrière, mais en fait il a adopté une technique qui est globalement de ne pas dormir, et il a rattrapé au fur et à mesure tous ses concurrents et gagné cette course. Donc la Loose n'est pas cette fois pas pour le coureur, mais pour tous les autres qui étaient un peu des professionnels aguerris avec le matériel dernier cri et qui se sont fait battre par un sexagénaire fermier, ouais.
Alors comment on fait? Parce que vous dites que vous ne connaissiez pas, donc ça veut dire vous faites quoi? Vous tapez Loose sur Google et vous voyez ce qu'il ressort?
Alors un petit peu, effectivement, il y a beaucoup de travail de recherche en préalable. Effectivement, on avait beaucoup, nous, d'histoires. Puis après, j'ai vraiment passé du temps à rechercher des histoires un peu à la fois. Effectivement, il y a des histoires connues comme Nice et des histoires aussi insolites comme celle-là. Donc on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que je ne suis pas tout seul à l'avoir écrit. Je ne suis pas tout seul à LFFL, mais on a passé beaucoup de temps à... aller creuser ces histoires, aller découvrir lesquelles pouvaient rentrer dans notre livre et lesquelles effectivement étaient moins connues. On a lui, on a aussi un Japonais qui a fait son marathon en 54 ans. Donc on a pas mal d'histoires comme ça, beaucoup moins connues du grand public qu'on avait envie de mettre en valeur, quoi, pour prouver que la Loose n'est pas que française.
Je dois confesser une petite tendresse pour une autre Loose, celle du cycliste Binyam Girmay, je crois que ça se dit comme ça, sur le Giro en 2022.
Ouais, c'est une Loose historique parce que, enfin, c'est une victoire d'abord historique avant d'être une Loose parce que, effectivement, c'est la première fois qu'un cycliste noir africain, parce que Christopher Froome est kényan, donc c'est pas le premier africain à avoir gagné sur un grand tour, mais c'est le premier noir africain qui est quand même un gros symbole à avoir gagné sur le Giro. Et pour sa première victoire, il a pas tellement su déboucher sa bouteille de Prosecco, ce qui a fait qu'il a pris le bouchon dans l'œil et a dû abandonner après son podium. Voilà, c'est un peu la blessure bête.
Ouais.
Et un peu drôle quand même.
On fait le tour du monde des Looses et en effet, on se rend compte, vous le disiez, que toutes les Looses ne sont pas françaises. Un petit arrêt au Brésil, le traumatisme de la Coupe du Monde 2014 pour les Brésiliens battus 7-1 par l'Allemagne. Là, c'était au-delà du supplice.
Là, ça fait partie un peu comme Nice-Na, hein. Ça fait partie des moments où on se souvient un peu tous où on était. Et les peut-être 10 minutes où ils prennent 5 buts, alors je me trompe peut-être dans le déroulé exact des choses, mais en tout cas, la première mi-temps, c'était vraiment, je pense... la plus grosse humiliation sportive que chacun ait pu voir devant sa télé. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, en creusant aussi, il y a une autre humiliation du Brésil qui est elle aussi à domicile contre l'Uruguay. J'ai plus l'année en tête exacte, mais en gros, c'est la deuxième fois finalement qu'ils subissent une humiliation à domicile. Donc ouais, c'est assez drôle et il fallait la re-raconter de cette manière, ouais.
Alors vous allez parfois dans des exercices aussi de style, par exemple il y a des uchronies. Exemple, si la France avait bien gagné contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby 2023, finalement ça n'aurait pas changé grand chose.
Ça nous aurait peut-être fait plus souffrir parce que dans notre imaginaire on aurait perdu contre les Anglais, et ce qui est encore pire que perdre contre les Sud-Africains à domicile. Donc oui, effectivement on revisite un petit peu les grandes défaites du sport français pour se dire finalement si on avait gagné est-ce que ça serait mieux? Bon, après, c'est avec beaucoup de mauvaise foi, mais notre réponse est non, ça serait pas mieux.
Mais ça relativise, ça, le côté Loose. C'est pas tellement dans votre ADN, je trouve, de relativiser les belles défaites.
De relativiser... Ah non, au contraire, on relativise toujours. Enfin, c'est-à-dire que nous, on dit toujours, effectivement, on perd pas plus que les autres, on perd juste mieux. C'est-à-dire que nos défaites, comme l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde, il y a vraiment ce côté un peu tragicomique de la fameuse pénalité contrée, chose qu'on ne voit jamais dans le rugby, sauf contre nous. C'est-à-dire que si on la passe, on gagne et du coup, on perd vraiment sur des détails qui n'arrivent que pour nous. Donc il y a vraiment ce petit côté, on relativise en se disant, ok, on a perdu, ça fait mal, mais on a perdu avec notre manière, et cette manière-là, on arrive à en sourire.
Il y a aussi quelques histoires hallucinantes, hein, moi que j'avais pas, par exemple le déshonneur des rugbymen des Harlequins en 2009, l'histoire est quand même dingue.
Bah, l'histoire est folle, effectivement, un rugbyman qui simule une blessure sanglante pour sortir.
Donc, il a des poches de sang, c'est incroyable.
Alors il y a quand même tout le côté, parce qu'effectivement il y a souvent de la triche dans le sport où on triche sur le moment de manière un peu aléatoire. Là c'est vraiment quelque chose de préparé où il y a eu des poches de sang qui ont été prévues pour qu'il puisse sortir et faire rentrer des joueurs plus frais pour pouvoir gagner. Sauf que bah, comme souvent les triches, elles sont démasquées et il a subi comme lui à la fois une humiliation et une honte nationale. Ouais.
Donc la loose vient de tous les pays, de tous les continents. Est-ce qu'il y a quand même un top 5 de la loose ou un top 3 de la loose selon vous?
Bah, je vais quand même retourner à mes sources, mais nous, notre loose principale, ça reste ma préférée, en tout cas ça reste celle de Laurent Fignon, dont on parle au tout début du livre, dont on avait parlé aussi dans le premier ouvrage. Mais qui est vraiment cette loose qui finalement réhabilite, parce que Laurent Fignon, c'était pas quelqu'un de trop aimé en France avant son fameux contre-la-montre, c'était quelqu'un qui était quand même arrogant, qui gagnait, et finalement on l'aimait pas tant que ça. Hein. Et une fois qu'il a perdu de manière, je veux dire, tragique sur les Champs-Élysées, eh ben, il est devenu un peu cette coqueluche française, voilà.
Donc il faut perdre pour devenir la coqueluche.
Il faut perdre avec une certaine dramaturgie. Dans notre livre, c'est sur la couverture. On a aussi en Italie Roberto Baggio, qui est un petit peu pareil, alors qui n'était pas non plus lui détesté, mais qui est vraiment devenu quasiment iconique grâce à son pénalty raté en finale son tir au but raté en finale de la Coupe du Monde. Et ça là, nous, on a eu Trezeguet où finalement, il a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a touché la transversale. Et on l'a un peu moqué, on l'a un peu mis même plus bactère pendant quelques mois, voire quelques années. Lui, il est devenu quasiment une idole à ce moment-là. Donc ça m'a amusé de voir le comparatif.
Il faut parler de la préface, signée Romain Grosjean. Il parle de son rapport au voyage et il conclut « Loin de la maison, tu ne tombes pas sur les postes de la Fédération française de la loose. Quel repos finalement !» Il est très fair-play, Romain Grosjean.
Très fair-play, parce que pour le coup, dans nos différents posts sur les réseaux sociaux, après il a fait quand même quelques petites cagades, hein. Mais effectivement, sur nos réseaux sociaux, il a été un peu notre chouchou pendant quelques années. Il a fait une fin, on va dire, en fanfare. Maintenant, on peut en rigoler peut-être, mais il a quand même une fin. Mais un peu de la même manière, c'est-à-dire que beaucoup de gens, parce que nous, effectivement, quand on se moque sur les réseaux sociaux, on est quand même là à dire, ça reste un pilote de Formule 1. Il a fait je sais pas combien de Grands Prix, donc on est quand même bon, parce que les mauvais pilotes, on va dire, en Formule 1, durent jamais longtemps. Il a quand même duré plus de 10 ans. Et il a fait une fin, finalement, tout le monde a presque oublié ses cagades et s'est dit, waouh. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est comme une fin de beau gosse, quoi, de badass. Sortir dans les flammes comme ça, tout le monde était...
Avec quelques brûlures aux mains, finalement, quasiment.
Pas grand-chose. Il y a quand même des photos qui sont... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un film un peu comme le film Bad Boy, où les deux héros sortent des flammes des voitures. Lui, c'est un petit peu pareil, donc ça a coupé le souffle de beaucoup de gens. Et finalement, ça l'a... Alors, pas réhabilité, mais ça lui a mis une autre image dans la culture, je trouve, sportive, ouais.
Et comment ça se passe de proposer une préface à Romain Grosjean?
Bah, écoutez... De la même manière que ça a marché pour Thibaut Pinot pour le premier livre, c'est-à-dire qu'on lui a demandé et il a bien voulu. Et donc il l'a fait, je pense, avec beaucoup de malice, en se disant ça, peut-être ça tourne une page où il avait envie de raconter des choses, parce qu'il parle beaucoup de ses voyages, effectivement, dans sa préface. Mais nous, ça nous a fait marrer, parce qu'on se dit toujours comment on est un peu perçu, est-ce qu'ils nous en veulent ou pas? Bon, a priori, non.
Oui, a priori, non. Antoine Declercq, vous signez avec la Fédération française de la loose le tour du monde en 80 looses chez Marabout. C'est un voyage tantôt hilarant, tantôt désespérant, tantôt instructif ou distrayant. C'est à peu près la définition, il me semble, d'un bon cadeau de Noël. Merci beaucoup.
Merci à vous.